Monde Noir, le retour.
Voilà, deuxième partie d'émission. Et ben, c'est moi qui entame les hostilités en vous parlant d'un roman qui sort dans quelques jours. Je pensais que c'était 1er mars, mais je crois qu'en fait, c'est un peu dans... Voilà, courant mars.
Donc, ça vous laissera le temps d'aller le commander.
Voilà, exactement. Alors. Donc, c'est un roman qui s'appelle « La pension de la Fia, de la Via Safi ». Mon italien est lamentable. C'est le deuxième roman de Valerio Varese. Ça va, c'est pas mal,
mieux, ouais.
C'est un peu mieux.
Safi, donc là, il y a deux F, hein. S-A, deux F-I. C'est bien ça,
ben, Safi, oui, mais ça se prononce comme ça quand même.
Oui.
Bon. Et donc, c'est un roman donc, qui va paraître dans quelques jours aux éditions Agulou. Très belle couverture dans les parmes violets, tout à fait ma couleur de prédilection. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle de ce très bon roman. On avait découvert le commissaire Soneri, un parmesan. Et oui, ça prête à rire, mais il est de la région de Parme. En fait, il est de Parme lui-même et on peut pas dire autrement. Et on l'avait découvert l'année dernière sous des torrents de pluie dans un très bon roman qui avait attiré notre attention, qui s'appelle toujours Le fleuve des brumes, paru d'ailleurs aux mêmes éditions. Et nous le retrouvons ici quelques jours avant Noël. Et s'il ne pleut pas, la ville de Parme est envahie d'un brouillard tenace. Mais alors, tous les soirs, même pratiquement toute la journée. Et on peut dire que c'est la métaphore de cette enquête où tout semble brouillé. Vous ne trouvez pas cette histoire totalement illusoire ? Demande d'ailleurs à la fin du livre une des personnages. Alors, c'est un personnage voilà, qui apparaît, disparaît dans ce brouillard puisque on la découvre au tout début du roman, une vieille dame. Et puis, on ne sait plus rien d'elle, à part qu'on l'évoque de temps en temps. Et puis, elle va réapparaître mystérieusement, un peu miraculeusement, devinez, le jour de Noël. Et oui, tout n'est qu'illusion. À commencer par le personnage de, alors là, je prends mon souffle, Gita Tagliavini. Ça savait bien que je l'écorcherais. Tagliavini, voilà, ça va mieux. Gita, elle était, puisqu'on la découvre assassinée, elle était propriétaire d'une petite pension. Et donc, on vient de retrouver son corps. Pourquoi tuerait-on ?
Une pension via sa fille, donc je peux supposer.
Bravo, la fameuse pension de la via sa fille. Et en gros, pourquoi tuerait-on cette petite vieille qui laissait, et laisse encore d'ailleurs, de si bons souvenirs à ses jeunes étudiants et autres fauchés à qui elle louait des chambres ? À commencer d'ailleurs par le commissaire Soneri. Et oui, parce que c'est là l'attrait de ce roman. Le commissaire Soneri, ben c'est là qu'il y avait rencontré Ada, sa femme, qui malheureusement est décédée depuis. Et bien des souvenirs vont évidemment revenir à la surface. Et Gita, dans ce brouillard épais, semblait bien avoir vu plusieurs vies, plusieurs personnalités. Au départ, ça semble tout simple, et ben non. Elle était un peu sorcière, un peu faiseuse d'anges, un peu taulière et entremetteuse. Et ça, aussi bien dans la ville de Parme, où elle y tenait pension, que avant, mais encore maintenant, dans les montagnes, dans le petit village de montagne dont elle était originaire. Et où elle laisse des souvenirs, pour le moins différents les uns des autres. Et petit à petit, le flic, donc le commissaire Soneri, et son adjoint dissipent les rideaux de fumée, soigneusement entretenus, à la fois par les proches de la vieille, mais aussi par certains de ses plus récents clients. Oui, évidemment, à quoi bon ressortir les vieilles histoires ? Même si on semble dans le milieu des affaires, à Parme, même s'ils pensent qu'il vaudrait mieux suivre ces pistes plutôt que d'autres, justement, les affaires récentes. Mais Soneri est têtu. Très têtu. Et il va évidemment fourrer son nez dans des affaires qui puent. Les trafics d'argent, le scandale n'est pas loin, le pan-scandale n'est vraiment pas loin et c'est pas le moment, on est à quelques jours de Noël. Mais le commissaire, lui, s'en fout un peu. Même si la recherche de la vérité le hante. Au fur et à mesure de ses investigations, il va surtout découvrir qu'Ada, son aimée, sa femme sublimée, idéalisée depuis son décès prématuré, Ada, donc, lui avait caché une partie de sa vie. Et là, le doute s'installe. Les soupçons empoisonnent sa vie. Foutus souvenirs, enfoirés de photos, qui font ressurgir les secrets les mieux enfouis. Cachés dans l'opacité, non pas du brouillard, mais du temps qui passe. Je cite, « Le temps n'a pas besoin d'alibi, Il est comme le bourreau, il accomplit simplement son œuvre. C'est vraiment un très joli plaisir que de retrouver ce personnage, errant dans cette ville de Parme, plein de charme, remarquez la rime, enfin presque rime pauvre quand même, mais cette ville qui est aussi blessée dans sa chair, dans ses petites ruelles, et surtout, c'est les habitants de Parme qui sont blessés, dépassés par ce monde moderne, pourri par l'argent. Alors bon, vous allez trouver, et vous avez raison, l'image est un peu caricaturale, certes, mais habilement montrée, utilisée par l'écrivain italien, qui préfère, je dirais, paisiblement, nous raconter quelques destins individuels, des drames personnels, j'ai réemployé le mot, des illusions perdues, évoquer des images fantasmées ou bien réelles, qui poursuivent tout au long du roman ces personnages, mais aussi bien les lecteurs. Et ce style de narration, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'un réquisitoire emphatique sur les pouvoirs corrompus. Non, là, on a une espèce de lente déambulation à travers les méandres tout à la fois d'une ville, mais aussi des mémoires individuelles et collectives. Je rappelle donc, je prends La pension de la Via Safi. C'est donc un roman de Valerio Varesi qui va sortir dans quelques jours chez Agulo Édition.
Tu ne nous as pas dit le traducteur.
Et voilà, j'ai omis au début de ma chronique de parler de la traductrice qui s'appelle Florence Rigolet. Voilà, Jacques, tu vas nous présenter un petit morceau de musique.
Un petit disque qui vient tout juste de sortir. C'est un disque de Rhiannon Giddens. Alors Rhiannon Giddens, elle a longtemps fait partie du groupe Carolina Chocolate Drops, dont on a écouté la musique un peu ici. Elle joue du banjo, du violon, et surtout, elle chante. Elle chante vraiment très très bien, elle a une voix très, très particulière, très prenante. Et donc sort ces jours-ci son deuxième album en solo, qui s'appelle Freedom Highway. C'est un disque qui évoque l'histoire des esclaves noirs américains, mais aussi de tous ceux qui ont lutté pour les droits civiques aux États-Unis. Et si j'en crois ce qui se passe actuellement, ils vont encore avoir un petit peu de boulot de nouveau depuis le nouveau président. Donc, on va écouter une chanson qui s'appelle Love Come. Non, Come Love Come.
Il ne faut pas y changer là.
Voilà, de Rhiannon Giddens, extrait de Freedom Highway.
I was was 16, found my boom and found my man. We jumped the broom, we pledged each other the rest of our lives. And on Saturday nights we were man and wife. Come love, come, the road lies low, the way is long and hard, I know. Come love, come, the road lies free, I'll wait for you into the sea. I was 18, bugle and followed free. They led the way to Tennessee. Come love, come, the road lies low, the way is long and hard, I know. Come love, come, the road lies free, a way for you in Tennessee. Tiny shack with 13 others at my back. I've sent you word, so all I can do is wait and wait and wait and wait and wait and wait for you.
C'était donc Rhiannon Giddens pour un morceau qui s'appelait Comme, qui s'appelle toujours, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je parle au passé, Comme Love Come. Et du passé ressurgit le Sherlock indémodable pour un livre, non, deux livres.
Voilà, Jacques. Deux livres. En fait, oui, alors notre émission est plutôt généralement consacrée au roman noir, mais bon, c'est une règle qui est plutôt, comment dire, non écrite. Et on va l'outrepasser complètement ce soir pour,
enfin, surtout toi, hein.
Pour finir l'émission, on va évoquer Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes, j'entends déjà derrière le poste quand on dit « Oui, mais enfin bon, c'est pas vraiment nouveau. »
C'est pas un jeune tendon de l'année, hein.
Eh ben si, parce qu'en fait, viennent de sortir deux recueils de nouvelles mettant en scène le détective du 221 B, Baker Street.
B.
Ils sont parus tous les deux, presque simultanément.
Chez c'est cinq syllabes, c'est dur à dire.
Chez deux éditeurs, en ce début d'année. Le premier est paru aux éditions Baker Street. Et si, c'est pas du tout une blague, les éditions Baker Street existent bien.
On a déjà évoqué.
On les a déjà évoqués ici. Le recueil se nomme « Le détective détraqué ou les mésaventures de Sherlock Holmes ». 280 pages. Il comporte 20 nouvelles de 18 auteurs. Donc ça veut dire qu'il y en a qui en ont plusieurs. Des Anglais, des Américains et même des Français. Le second recueil est paru dans la collection Rivage Noir. Le titre en est « Les avatars de Sherlock Holmes » et il comporte 8 nouvelles pour cet auteur. Il semblerait que d'autres sont prévus.
Donc,
un auteur a plusieurs nouvelles.
Un auteur a plusieurs nouvelles.
Exactement. Il semblerait qu'il y ait d'autres recueils de Sherlock Holmes, enfin mettant en scène Sherlock Holmes, prévus chez Rivage pour plus tard.
Donc, parmi tous ces auteurs, aucun ne s'appelle Sir Arthur Conan Doyle.
Eh bien si, dans le premier, justement, il y en a une nouvelle qui est écrite par Arthur Conan Doyle lui-même. Alors, dans ces deux romans, il y a deux auteurs qui figurent dans les deux livres. Et il y en a même un qui figure avec la même nouvelle, bizarrement, mais ça, comme les éditeurs apparemment se sont pas concertés pour publier ça, ben y a la même nouvelle avec deux titres et deux traductions différentes. C'est un certain Robert Barr, B-A-2-R, que je ne connaissais pas, et dont la nouvelle Le mystère de Pelgram, ou Le grand mystère de Pelgram, selon l'édition, est pas mal, mais bon, sans plus. Et il y a un deuxième auteur, alors là, ils sont plus chanceux, il a aussi une nouvelle dans chaque, mais c'est une nouvelle,
c'est pas la même.
Et cet auteur, en plus, vous le connaissez probablement, contrairement à Robert Barr, que vous connaissez peut-être d'ailleurs.
Oui, c'est possible.
Cet auteur, c'est J.M. Barrie, B-A-2-R-I-E, et il est très connu parce qu'en fait, il a écrit Peter Pan. Et c'est un contemporain de Conan Doyle. Donc Conan Doyle, je rappelle au cas qui connaîtrait pas Sherlock Holmes, et ben Conan Doyle est l'auteur des aventures de Sherlock Holmes.
Sir Arthur.
Et ben il est comme J.M. Barrie, c'est un édimbourgeois. Donc un habitant et un étudiant dans la grande ville.
Oui, on avait compris qu'il aimait pas les hamburgers.
Voilà. Et ce J.M. Barrie, c'est aussi en fait un des premiers à avoir pastiché Conan Doyle et Sherlock Holmes, parce qu'en fait, la nouvelle qui est dans ce recueil est parue en fait 4 mois à peine après la
dernière aventure.
Non, la première.
Ah.
La première aventure, la première nouvelle de Sherlock Holmes, mettant en scène donc ce fameux détective. Et il y a même étonnamment, on en parlait tout à l'heure, dans le recueil publié par Baker Street, une parodie écrite par Conan Doyle lui-même.
Oui, parce que dans tout ça, enfin, peut-être qu'un roman, un des deux recueils est plus spécifique, mais c'est beaucoup de parodies, en fait. C'est pour ça, peut-être qu'on adopte aussi ce ton un peu léger.
Voilà, oui, ce sont toutes des parodies. Alors bon, ils se moquent tous sans se moquer vraiment, en fait. Hein. Il faut bien dire qu'on dirait qu'ils osent pas trop.
Un peu comme. On ne touche pas au mythe.
En fait, ouais, ils sont assez respectueux du personnage ou comme si ils osent pas vraiment comme s'ils avaient peur de subir une fatwa d'un quelconque groupuscule holmésien qui s'érige en gardien du temple de...
Un certain professeur Moriarty, voilà. Peut-être.
Il y en a un parmi ces auteurs qui se moque carrément de Sherlock Holmes.
Et pas des moindres comme auteur, comme écrivain.
Et de ses remarquables talents de déduction, c'est Jean Giraudoux. Jean Giraudoux, pas particulièrement connu pour être auteur de polar, mais là, vraiment, sa nouvelle, elle est... Bon, j'adorerais vous dire la fin, mais ça serait vraiment dommage, mais elle est succulente. Un autre auteur très connu, c'est Jack London. Lui aussi, il a tendance un petit peu à contourner le mythe. En fait, lui, dans sa nouvelle, ou c'est un petit récit, il fait une espèce d'histoire parallèle, une histoire littéraire parallèle entre sa propre vie, donc celle de Jack London, et celle de Conan Doyle. Et il y a des moments où elles se croisent, sans s'être vraiment croisées... réellement, mais elles ont des espèces de parallèles.
Alors, des parallèles qui se croisent, tout à l'heure mathématiquement, oui. Suivez là, tu moi.
C'est ça l'astuce, c'est le grand talent de Jack London, et aussi de Conan Doyle d'ailleurs. De même, la nouvelle de Jack London, elle est vraiment complètement délicieuse, elle est assez longue, et elle nous entraîne comme ça, on se demande, mais où ils vont venir comme ça, nous raconter sa propre histoire, on la connaît, et puis il mêle à chaque fois, mais Sherlock Holmes, ou Conan Doyle, ça dépend, c'est très très bien. On va passer à l'autre recueil, on a beaucoup parlé de celui de Baker Street, donc chez Rivage, et chez Rivage, il est plus petit, là je disais 280 pour un, celui-là il fait 135 pages seulement, et là aussi il y a quelques plumes célèbres, donc j'ai déjà parlé de J.M. Barrie, mais celui qui signe la meilleure nouvelle de cet opuscule, c'est P.J. Woodhouse.
Oh, le papa de Jeeves.
Le papa de Jeeves, le butler philosophe. Et
majordome, je traduis comme pour les...
Et de son maître, un peu fantasque,
un peu
crétinien certaines fois, Bertie Wooster. La lecture de Woodhouse, je le répète, je crois que l'avoir déjà dit une fois dans cette émission, et en particulier des aventures de Jeeves, devrait être absolument remboursée par la Sécurité sociale, tant cette lecture fait du bien et doit éviter de nombreux Prozac et autres...
Antidépresseurs,
c'est la lecture idéale des soirs brumeux, des dimanches soirs brumeux et pluvieux.
Comme il en existe beaucoup, aux alentours de 221 voilà. Baker Street, B Baker Street.
Et alors ici, la nouvelle s'appelle « Extrait d'un carnet de détective ». Et alors elle remet en place avec humour et bien des certitudes sur le professeur Moriarty, qui est pour Sir Moriarty, tu l'as évoqué, il est presque aussi indispensable à Holmes que Watson ou Madame Hudson.
L'archétype du méchant qui revient.
Et là, il le remet en place de façon assez étonnante et drôle. Bon, je pourrais évidemment évoquer, mais d'abord le temps presse, chaque nouvelle. Et puis ce serait dommage de déflorer trop d'indices. Puis il faut bien laisser Sherlock déduire un petit peu quelque chose. Juste une, écrite par un certain John Kendrick Bangs. C'est un copain de Mark Twain. Et le titre de sa nouvelle est « Une énigme pragmatique ». Et elle finit, je vous dis la fin là, je crois, elle finit par un titre de journal « Les détectives savent-ils détecter ?» Elle se passe à Boston et la réponse est je vous laisse la voir. Est-ce qu'ils savent vraiment détecter ? C'est pas sûr.
Donc on rappelle très rapidement, parce que tu parles de fin, mais nous arrivons au terme de notre émission. Donc très rapidement.
Les avatars de Sherlock Holmes
chez
Rivage Noir, le détective détraqué chez Baker Street. Et on apprendra, toute dernière information de première main,
tu veux pas lâcher l'antenne.
Rapportée par Jack London, Sherlock Holmes n'a pas existé. Et oui, on croit qu'elle a existé. Et le Diogène Club non plus, dans lequel Mycroft...
Et 220B, Baker Street, non plus.
Si le 221B existe, mais ils n'ont jamais habité. Mais Sherlock Holmes n'existe pas. Et on peut supposer donc que Mycroft non plus.
Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs, hein, vous avez le choix.